Bonjour à chacun. Vous avez tous pris place. Magnifique. Bienvenue dans cette église. Aujourd'hui, les rangs un peu moins serrés, puisque je pense qu'il y a des après-mariages qui font que certains ne peuvent pas être parmi nous. Mais bienvenue pour ce culte d'adoration. Adoration et louange. Et aussi un culte où nous allons pouvoir écouter ce que notre Dieu a à nous dire. Bienvenue à ceux qui nous visitent. S'il y en a qui nous visitent ce matin, sentez-vous accueillis, ceux qui nous visitent, et vous, et surtout et notamment à ce haut lieu du culte qu'est la table de la Sainte Cène, où nous communierons ensemble dans un esprit d'amour avec tous nos autres frères et sœurs par le monde et avec notre Seigneur. Ce matin, comme musique d'introduction, pour l'instant il n'y en a point eu, il va y en avoir une. C'est en fait un petit chant d'enfant. Un petit chant d'enfant qui rappellera à certains quelques bons souvenirs d'il y a 30, 35 ans. Pierre Van Verdon qui transformait, mais qui mettait en musique des versets bibliques. Et pourquoi un chant d'enfant ce matin? Parce qu'en fait, Dieu nous dit que sa force s'accomplit dans la faiblesse. Qu'il tire sa louange des enfants qui sont à la mamelle. Et que c'est dans cette faiblesse que des fois il y a beaucoup de choses, apparentes en tout cas, que beaucoup de choses s'accomplissent. Alors, écoutons ce chant, puis après, je reviens vers vous. Parfait comme musique, c'est une vieille cassette que j'ai retrouvée. Mais quand David m'a dit j'aimerais faire une louange bâtie sur des versets bibliques, des chants qui sont... Alors tout de suite, ce chant s'est imposé à moi. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé cette vieille cassette au fond de mes tiroirs. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ou son plan. Est-ce qu'on y croit ? Difficile de croire vraiment à ce verset magnifique, parce qu'il faut y adhérer. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Et puis, il faut se sentir appelé. Pour que ces choses concourent à notre bien, des fois des choses difficiles, des choses qu'on ne comprend pas, il faut se sentir appelé par Dieu. Viens et suis-moi. Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Venez à moi, car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est ça ce qu'il veut nous dire. Venez à moi, j'ai besoin de vous. Vous êtes des ambassadeurs de la réconciliation entre nous et parmi les peuples. Voilà toutes ces choses en méditant un petit peu ce verset, qui m'a travaillé un peu tout ce week-end, enfin, il commence le week-end, mais ces jours, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés et qui se sentent appelés et qui répondent à l'appel, comme on le disait dimanche dernier, qui vont, allez, Jésus nous appelle. Eh bien, voilà, il faut adhérer, avoir la foi pour croire à ce verset, en fait, magnifique de la parole de Dieu. Ce dimanche, on ne peut pas passer par-dessus comme ça sur ce qui se passe chez nos voisins français. C'est un dimanche particulier pour eux, mais aussi pour nous et pour l'Europe. Qui sera élu président de la République française? Quel sera le taux d'abstention pour tous les gens qui ne s'y retrouvent pas? Que n'a-t-on pas entendu autour de cette élection ces derniers temps? Combien de promesses ont été données par tous les candidats? Et les deux derniers, seront-elles tenues? Là, il faut énormément de foi, avec un petit F, pour s'y accrocher et pour y croire. Oui, notre monde est à la peine, dans tout le fatras qui est autour de nous. Partout des nouvelles, pas toujours bonnes par rapport à ces élections. Des schismes, des révolutions. Prenons le Venezuela, qui vit un temps extrêmement difficile. Des attentats, sans parler de tous les problèmes de l'économie et de la finance. La migration et tout le reste. Nous sommes, y compris dans notre pays, un peu ébranlés dans nos certitudes. Quel avenir? Quelles choses vont concourir à notre bien? Quelle réconciliation peut-on espérer parmi les peuples ou dans le peuple? Ce sera un peu le thème de la prédication ce matin. Je vais vous lire un verset encore du prophète Ésaïe, chapitre 54, au verset 10. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur reste inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dis, moi qui te garde ma tendresse. Voilà une promesse, comme dirait Paul, certaine et entièrement digne d'être reçue pour ceux qui aiment Dieu. Les montagnes s'éloignent, les collines peuvent chanceler, que ce soit dans le monde politique ou dans notre monde intérieur. L'amour de Dieu, celui qui nous promet, ne changera jamais. Et il nous le promet. Et je crois qu'il tient à ses promesses. Chantons le chant numéro 28. Quand les montagnes s'éloigneraient. Nous allons le chanter comme une prière, un acte de foi, et ensuite l'équipe de louange continuera la louange. Voilà. Merci à toute l'équipe, à David. Tant pis, Barbara n'est pas avec nous, elle a mal à la main, elle ne veut pas jouer de la flûte, c'est bien dommage, mais on va quand même louer Dieu, donne-nous notre cœur.
Tout à fait.
montagne s'éloignerait quand les collines chancelleraient. Quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet.
Mon amour ne s'éloignera jamais, point loin de toi. Voilà une belle promesse. Que la parole du Christ, qui réside au milieu de vous dans toute sa richesse, et qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et pour vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Ça, c'est Colossiens, c'est un verset que je viens de vous lire et qui, quand je l'ai lu l'autre jour, m'a frappé. Et puis, il a résonné en moi. Et puis, je me suis dit qu'on pourrait faire un moment de louange uniquement en nous inspirant des paroles qui sortent directement de la Bible, qui sortent directement de la parole de Dieu. Et ce matin, effectivement, comme l'a dit Paul Robert, on va prendre tous les chants que nous allons prendre, c'est des reprises de versets bibliques, soit telles quelles, soit très, très fortement inspiré. Parce que la parole de Christ réside au milieu de vous. Et c'est vrai que moi j'admire certaines personnes d'entre nous qui arrivent à retenir des versets, à connaître les références. Et puis moi je suis là avec mes 3-4 versets que je connais par cœur. C'est pas facile de retenir des versets et de retenir en plus la référence. Mais un des moyens, c'est les chants. Parce que les chants, c'est vrai que, en tout cas pour moi, c'est plus facile de retenir des paroles sur une mélodie. Et voilà pourquoi ce matin, on va chanter des chants tirés de versets. Alors, quand les montagnes, c'était dans Ésaïe 54, celui qu'on vient de faire. Mais là, on va chanter un chant qui nous rappelle que la parole, c'est la lumière devant nos pas. C'est le psaume 119, le verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. »
Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas,
mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est Job qui dit ça. Il reconnaît sa position, il se repent, il se remet. Il remet toute sa situation et sa vie à l'Éternel. et l'Éternel le bénit abondamment alors. Job devient l'exemple d'un homme fidèle et consacré. Mon oreille avait entendu parler de toi. Que dire de l'Éternel qui est notre berger ? Le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans les prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes, il me rend des forces neuves. Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai.
L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Ô mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Ô mon âme, chante mon âme, tout le bonheur et la grâce m'accompagneront devant ça. Sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, ô mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller ton soleil, Yahweh, Yahweh, maison j'habiterai. Ô mon âme, chante mon âme,
sans cesse jusqu'à son retour.
Mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours.
Oui,
le jour, le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie.
Et tant qu'il se trouve auprès de moi,
aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Louons et adorons notre Dieu Tout-Puissant, chantons et proclamons qu'il est vivant. Louons et adorons notre Dieu Tout-Puissant, chantons et proclamons qu'il est vivant. Il est vivant, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur. Louons et adorons. De l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur. Louons et adorons notre Dieu Tout-Puissant, chantons et proclamons qu'il est vivant. Louons et adorons notre Dieu Tout-Puissant, chantons et proclamons qu'il est vivant. Qu'il est vivant.
Il est vivant, notre Seigneur. Amen.
Voilà, nous allons passer à la prédication, au message, au sermon, mais surtout à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole et de Claude ce matin, que je remercie pour sa préparation et tout ce qu'il faut préparer pour apporter, de disponibilité aussi, pour apporter un message. Son thème, la priorité à la réconciliation dans le projet de Jésus pour nous. Il nous invite à lire dans Matthieu, chapitre 5. Oui, c'est vrai, les enfants, excusez-moi. Vous pouvez sortir. Tu peux y aller, Isaïe. Que Dieu vous garde et vous bénisse dans cette matinée. Qu'il vous enseigne sa parole et son amour. Alors, nous reprenons Matthieu chapitre 5, versets 21 à 26. Je lis dans la traduction œcuménique de la Bible. C'est donc Jésus qui s'exprime dans le cadre du sermon sur la montagne. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. Et moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Celui qui dira à son frère imbécile sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui dira fou sera passible de la géhenne de feu. Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens alors présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire tant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que cet adversaire ne te livre au juge, le juge en gendarme, et qu'il ne soit jeté en prison. En vérité, je te le déclare, tu n'en sortiras pas tant que tu n'auras pas payé jusqu'au dernier centime. Priez pour Claude. Merci Seigneur parce qu'on peut servir. Tu nous appelles à te servir, à répondre, à aller. Et ce matin, on veut te remettre tout spécialement ton serviteur Claude, que tu le bénisses, que tu le fortifies, tu lui donnes ta sagesse, ton esprit renouvelé pour nous apporter ce que tu as à nous dire sur ce sujet de la réconciliation ô combien important. Nous le bénissons en ton nom. Et tu nous bénis à son écoute, et que cette parole entre dans nos têtes et descende dans nos cœurs, et qu'elle nous mette en mouvement, pour ton service et pour ta gloire. Amen.
Amen. À mon tour de vous saluer, chers amis, ceux que je connais, ceux que je connais moins, nous sommes en route. Nous avons Pâques derrière nous, nous avons Pentecôte devant nous. Pâques, pour tout juif, c'est la fête de la sortie de l'esclavage d'Égypte. N'est-ce pas? Sortir de l'esclavage de ce qui nous retient captifs, individuellement et collectivement. Cette initiative-là vient d'un Dieu d'amour. J'ai mis Jean 3, 16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné quelque chose que je ne serais pas moi capable de donner. Quand on touche à mes enfants, moi je deviens mauvais. Hein. Mais lui, il reste bon, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Une qualité de vie éternelle. Un lieu où il fait bon vivre quand on est comme ça. Ça veut dire quoi? Que ce que je vais vous dire, c'est les actions de réconciliation de gens eux-mêmes réconciliés. Ça change, vous savez. Quand on est soi-même réconcilié, reconcilié par Dieu, il y a certaines choses qui se mettent en mouvement et nous voulons faire place à une parole de Dieu, que la parole du Christ habite parmi vous en abondance. On l'a entendu? Et nous allons faire place à une parole du Christ qui concerne tout le monde. Elle est tellement basique qu'on l'oublie des fois, mais quand on la met en œuvre, Dieu que ça fait du bien. Alors, Pour commencer, j'aimerais lire une histoire. On se trouve en Afrique. C'est une première génération de chrétiens. Tout d'un coup, il y en a un qui ouvre l'évangile selon Luc et il décrit Jésus et son attitude face aux pécheurs. Il rencontre une femme pécheresse. Il rencontre Zachée, le collabo. Il accueille le bon voleur. Il mange avec les publicains. Et puis, voilà qu'on aborde les paraboles. Et ses frères et sœurs africains, réunis sous un arbre, entendent cette histoire d'un homme qui retrouve sa brebis et la femme qui recherche une pièce de monnaie, qui fait tout pour avoir cette pièce de monnaie. Et on arrive tout d'un coup à l'histoire de ce père de famille que le fils a quitté pour gaspiller tout son part d'héritage, d'accord, vous y êtes ? Tout ce qu'il avait, dilapidé d'une manière malpropre, et qui revient chez son père. Et tout d'un coup, la discussion éclate. On aurait dit que les gens allaient s'empoigner. C'était un énorme tumulte. Je vous le dis, ce père est fou d'accueillir son fils comme ça. Ah non, il ne faut pas amener ce texte au village. On ne peut pas respecter ce texte de réaccueillir, d'aller même à la rencontre de cet homme qui revient. Il ne devrait pas sortir pour courir devant son fils, ce père. Si les gens font comme ça, bientôt il n'y aura plus de village. Les gens ne respecteront plus les anciens, qu'on sait qu'on est bien sûr. Ce n'est pas du pardon, c'est de la faiblesse. Vous y êtes ? Et certains m'interpellaient, « Pourquoi as-tu amené ce texte ? Tu vas tout démolir avec cet enseignement. » Mais mon frère, j'ai rien amené. Tu avais déjà l'évangile dans ta main quand je suis arrivé, c'est pas moi qui l'ai écrit, j'y suis pour rien. Dieu est fou, je te dis, Dieu est fou. C'est peut-être pour cela qu'il nous aime. Alors, je voudrais qu'on ait un petit peu de ces grains de folie, parce qu'elle est contagieuse, qui nous touchent les uns et les autres. Ce n'est pas être pieux, c'est juste être guérissant. J'ai aussi mis un passage un peu plus compliqué, à la manière de l'apôtre Paul, quand il écrit aux chrétiens de Colosse, des choses où il est question du grand, grand projet. Je vous ai dit, le grand projet, c'est de mettre le monde sur le chemin de l'exode de l'esclavage d'Égypte vers un pays où il fait bon vivre pour tout le monde. Et dans Colossiens, Paul, il part en vrille, il est tellement heureux de comprendre ce qu'il a compris, et il parle de Jésus, et il dit « Tout est créé par lui », verset 16, « et pour lui, et il est lui par-devant tout, tout est maintenu en lui ». Et il est, lui, la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin de tenir en tout, lui, le premier rang, car il a plu à Dieu, de faire habiter en lui, Jésus, toute la plénitude, et de tout réconcilier, par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, au cas où vous cherchez ailleurs, ayant établi la paix par le sang de sa croix. Là, il y a le mot réconcilier. Reconcilier. Ça veut dire qu'on n'était plus concilié, s'il faut. Reconcilier. Vous êtes d'accord ? Nous avons entendu une parole dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. C'est les Juifs attendaient un nouvel exode. Ils voyaient bien qu'on était en esclavage tout en étant en Palestine. C'était l'esclavage de chacun pour soi. Et voilà qu'un ramassis de gens suivent Jésus. Et la première chose qu'il enseigne dans Matthieu chapitre 5, c'est cette manière de sortir de l'esclavage d'Égypte intérieure. Et il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Vous savez d'où ça vient, ça? Ça fait partie des 10 commandements. Tu ne commettras pas d'homicide. Ça fait partie du texte d'alliance pour la libération du peuple de Dieu. Tu ne commettras pas d'homicide. Vous êtes d'accord avec ce ? Oui. Sauf que ici, Jésus va donner un sens bien plus profond à ce commandement. Vous avez déjà tué combien de gens, messieurs, dames ? Beaucoup. Beaucoup ? Oui. Pourtant, Jésus va dire attention à une manière arrangeante d'imaginer la foi chrétienne. Des gens disent, moi, j'ai pas tué, j'ai pas vraiment franchement beaucoup volé, j'ai pas couché avec la femme de mon prochain, j'ai pas, n'est-ce pas? Et donc, je suis clean, les amis, qu'est-ce que je suis bien? Moi. Et Jésus va dire, mes amis, il y a différentes manières de tuer quelqu'un. D'accord? Et deuxièmement, il va dire, il y a différentes manières d'empêcher le règne de l'esclavage de la haine. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir, d'accord? Je vous entraîne. Jésus dit, vous avez entendu dans vos catéchismes qu'il a été dit, tu ne tueras pas. Jusque-là, on sait, ça vient du livre de l'Exode. Classique. Et Jésus nous enseigne maintenant, dans Matthieu 5, le sens profond de ce « tu ne tueras pas ». Il dira, c'est plus que juste ne pas tuer. Remarquez, c'est déjà pas mal, hein, quand dans une société, on interdit le meurtre, non? Car pour lui, Jésus, il y a différentes manières d'assassiner quelqu'un. Et la première des choses qu'il aborde, c'est la colère. Au verset 22, vous l'avez, la colère, orgē en grec. Il y a deux mots grecs qui sont un peu plus riches en grec qu'en français. Il y a la petite colère qui est quelque chose qui passe, d'accord? Et celle que vous entretenez. Il y a thermos et il y a orgē. Sauf que nous, en français, on ne fait pas vraiment la distinction entre les deux, d'accord? Mais là, il dit, et moi je te dis de ne pas te mettre en colère entretenue. Vous savez la différence? C'est comme quand je convoite une belle femme, c'est un moment, mais quand dans ma tête je nourris cette pensée et que je fais tout un scénario mental d'appropriation, vous y êtes? La distinction, elle est quand même grande, non? Hein? Non? Elle est grande, non? Ou bien? Messieurs, vous êtes d'accord? Parce que j'entends les dames rire, mais pour la colère, c'est pareil. Il y a celle qui passe un moment, elle passe, parce qu'on fait ménage et dit, il n'y a pas de raison. D'accord? Et il y a celle qui, tout d'un coup, ressasse. Une colère qui ressasse. Vous y êtes? Celle-là. Et ce que j'aime chez Jésus, il ne s'occupe pas d'abord de l'extérieur. Il dit, prends garde à ce qui se passe en toi. Parce que c'est là que se passe le meurtre. Vous avez vu? Et moi, je vous dis de ne pas vous mettre en colère entretenue. Elle également peut être criminelle. Et il s'agit de la localiser en soi. Alors, vous allez me dire, mais moi, je suis sauvé. Je suis sauvé. Oui, mais qu'est-ce qui est sauvé? Ton casier judiciaire ou ta vie? Parce qu'entre le casier judiciaire et la vie, il y a nos manières d'agir. Et le Christ est sérieux quand il dit « Je voudrais vous amener à un nouvel exode vers un pays où il fait bon vivre pour tous et dans la durée. » Vous saisissez la différence? Elle est importante? Eh bien ici, déjà dans l'Ancien Testament, ce n'est pas Jésus qui l'a inventé, déjà dans l'Ancien Testament, vous avez des ordres de ne pas haïr le prochain. Haïr, c'est fort haïr, non? Comment vous définiriez haïr? Vous avez des mots un petit peu plus détestés? Haïr, c'est quand vous l'avez devant vous et que vous êtes fort, vous le zigouillez, hein? Haïr, c'est quand de l'amertume s'est installée. Plus j'ai des raisons de le faire, je laisse une pensée détestable s'installer et j'entretiens quelque chose qui va affecter mon corps. Il y a des médecins ici. Psychosomatique. Tout d'un coup, vous dormez moins bien parce que... Qu'est-ce qu'il m'a fait? Vous allez vous la répéter, ce qu'il m'a fait. D'accord? Et quand vous la répétez, vous avez une... En vous tous, vous avez vu la petite balance que je vous ai mise en haut à droite? Ceux qui ont des bons yeux. Vous savez, il y a chez nous tous, ce sentiment que quand je suis dévalorisé, j'ai tendance à vouloir revaloriser qui je suis. D'accord? Ça se passe en nous. Il y a des termes psychologiques pour dire tout ça, mais ce sont des mécanismes de revalorisation de qui je suis. C'est ça aussi, la colère. Dans l'Ancien Testament, Deutéronome 19, 11, ne haïs, tu ne haïras pas ton prochain. Ça veut dire quoi? Tu vas le confronter dans la bienveillance, quand c'est encore temps, parce qu'il y a des moments où tu vas haïr tellement longtemps que l'amertume va te saisir et va pourrir tout le climat de la relation. Et on y vient. Tu as aussi dans Lévitique 19, tu ne haïras pas ton frère. Alors les frères, moi j'ai 3 frères et 1 sœur, d'accord ? Je sais ce que c'est, hein, de vivre en paquet. Et puis vous n'allez pas me la ramener en disant que tout se passe toujours bien dans certaines familles. Hein. Ou alors, ils ne cohabitent pas bien. Hein. Vous savez, des vrais frères, des vrais quoi. Hein. Pas toujours ceux que vous rêvez, qui vous disent toujours ce qui vous plaît, mais des frères où on doit se faire l'un à l'autre. Et c'est vrai que partout où il y a des gens qui vivent ensemble, que ce soit les couples, c'est pas que les gens n'aiment pas se marier. Mais c'est qu'il faut une autre puissance pour maintenir 2 êtres différents ensemble. Moi, j'aurais bien aimé être présent à la création quand Dieu créa femme et homme à son image. Pas de problème avec ça. Mais quand le Seigneur leur a dit, vous allez donner des noms aux animaux. J'aurais bien aimé voir comment Adam et Ève se sont mis d'accord pour mettre des noms aux animaux. Franchement, c'est conflictuel ce truc. Non ? Je ne voudrais pas l'inverse. Où on n'a pas le choix, où on n'a pas de boulot, où on n'a pas de créativité, d'accord ? Je préfère le risque de la conflictualité que plutôt le risque de devenir un robot. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il va nous aider à vivre quelque chose dans la diversité de qui nous sommes, mais dans une qualité d'unité malgré tout. Et pour ça, il faut le Christ, il faut l'amour, il faut le Saint-Esprit. C'est ce que nous allons voir. Ce n'est pas parce que je ne dois pas haïr le prochain que je ne dois pas trouver certaines idées inacceptables. Pour vous, il y a des idées inacceptables dans la vie ? Des choses, vous direz, ça, jamais, parce que ce n'est pas bon et je le maintiendrai. Faites bien la distinction. Pour le Christ, il y a des choses inacceptables. D'accord ? Qu'il dit péché, mal, mauvais. D'accord ? Alors, comment on vit avec tout ça ? Oui, effectivement, dans les Proverbes 8, 13, il dit que le mal est à haïr, que certaines colères sont saintes. Les miennes, j'aimerais vous le dire, rarement. Les miennes, elles fusent trop vite au bout de mon nez. Les mobiles de mes colères sont rarement vraiment saintes. Elles sont souvent égoïstes. Je vous le dis franchement. Et ma cocotte minute, quand elle commence à... Et avec de la pression... Des fois, il m'arrive de dire, Claude, tu n'as franchement pas raison de te mettre en colère. C'est égoïste, le mobile de ta colère. Mais parfois aussi, il m'arrive de dire, Claude, tu as raison, maintiens ta pression. Vous comprenez ? La distinction entre les deux, elle est des fois difficile. Pourtant ici, vous allez voir que mon sujet n'est pas le traitement de ma colère. Vous allez voir. Le Christ ne traite pas cette question. C'est pour ça que je dis une autre fois, on traite la question de la colère personnelle, d'accord ? Vous allez voir de la colère de qui il traite. Il y a des choses inacceptables. On reconnaît que la colère brise des vies. Oui, quand la colère se manifeste, si je ne communique pas dans la rectitude et l'amour, je risque d'ajouter du mal au mal. Par exemple, il y a des gens à qui on leur fait du mal, mais la colère de ces gens est tellement dévastatrice qu'ils utilisent des noms d'oiseaux et d'autres créatures qui font qu'on ajoute du mal au mal. Et ils ont tort de se mettre en colère de cette manière. D'abord, le Seigneur traite de la colère. Il dit, quand tu te mets en colère de cette manière, c'est une manière de tuer ton frère, même si tu as raison. Il y a des colères dévastatrices. J'ai pris une petite image là, de choses qui peuvent faire un vaste dégât. Effectivement, sous le dysfonctionnement de relations dans les couples, dans l'église, dans le voisinage, au travail ou entre les nations, ça peut se mettre à l'échelle petite ou à l'échelle très grande, il y a souvent des blessures. Des blessures. Il y a des gens, ils peuvent entendre des blessures derrière un dysfonctionnement relationnel. Ils entendent la blessure avant de voir leurs droits. Vous comprenez ça ? Pourquoi est-ce que certaines personnes sont si peu sensibles à la repentance, à changer de vie, à reconnaître leurs torts ? Il y a des gens, ils ne reconnaîtront jamais leurs torts, parce que je ne sais pas pourquoi. C'est trop compliqué pour moi. Mais vous avez vu que les gens sont différents les uns des autres, non? Il y en a, c'est des vrais bulldozers. Hein, fais pas attention aux pâquerettes. Et il y en a, ils sont l'inverse. On n'a pas tous à apprendre la même chose. Alors, revenons après la colère. Le Christ dit, vous savez, c'est les insultes. Vous avez vu dans le texte, il passe de la colère entretenue aux insultes. Les insultes, c'est plus extérieur par rapport à la colère qui est plus intérieure. Vous avez vu? Les insultes, c'est quand la colère, elle s'exprime, éclate. Ouais. Oh, moi, je dois vous confesser, j'ai beaucoup à faire avec ça. J'aime croquer dans la vie, mais j'aime aussi croquer dans les gens quand ils m'énervent. Je les envoie, pour un pasteur, c'est assez classique, je les envoie paître. Vous pas? Et vous n'êtes pas pasteur. Ça veut dire quoi? Que j'ai tendance à résoudre mes problèmes en ignorant les gens. Et ignorer, c'est tuer. C'est éviter, d'accord? Mais imaginez-vous qu'on commence à s'éviter les uns les autres dans l'église ou dans un couple. On commence à s'éviter les uns les autres dans un couple, d'accord? C'est beau, hein? C'est fragilisant, d'accord? J'aime le Seigneur sans réalisme. Regardez maintenant le petit truc de Jésus, un truc pédagogique, on ne se rend pas compte tellement on a l'impression de connaître les paroles de Jésus. Écoutez. La peine infligée, vous avez remarqué, il parle de l'AGN, du Sanhédrin, du tribunal local et du petit tribunal. D'accord ? Sauf que il fait l'inverse de ce que nous aurions tendance à faire. Nous, on aurait dit, si c'est un meurtre, il va en GN, d'accord ? Non ? Ben, il ne fait pas comme ça, le Seigneur. Regardez, il fait l'inverse. Regardez, c'est un petit truc d'humour du Seigneur pour qui sait le voir. Il dit, celui qui commet un meurtre, il va en répondre au tribunal. Je bénis Dieu pour les tribunaux. D'accord ? Mais celui qui se met en colère entretenue, il va dans le tribunal local. Celui qui donne une insulte grave, il va au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est à la capitale. Il n'y a qu'un Sanhédrin, c'est à Jérusalem. D'accord ? Et celui qui donne une insulte légère, tête de mouton ou quelque chose comme ça, hein, raka, raka-i, c'est comme ça que ça se trouve. Celui qui donne une insulte légère, il va dans la géhenne de feu. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? C'est pas un petit peu disproportionné? Eh bien, écoutez, la leçon que moi je tire de notre Seigneur, qui est sauveur de nos vies et de nos relations, c'est « Prends au sérieux toute manifestation d'insulte, y compris mineure, extérieure, mais avant tout intérieure. Prends au sérieux. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» D'accord ? Prends au sérieux. Et si tu as besoin du Saint-Esprit, dis-le-lui. Prends au sérieux. On continue ? On fait de la politique là, attention. Hein. Je me souviens que l'un des présidentiables d'aujourd'hui, il a terminé son allocution en disant « Moi, président, je veux réconcilier les Français. » Amen. Devant la possible colère de l'autre. Maintenant, regardez ce que dit Jésus. Si tu vas à l'autel, l'autel, il n'y en a qu'un pour un juif. Vous savez où c'est? Un seul. Dans les synagogues, il n'y a pas d'autel. Au temple. Ça veut dire quoi? Que 3 ou 4 fois l'an, ils font le pèlerinage trisannuel ou quadriannuel vers Jérusalem. Ils viennent de loin. Hein, ils viennent en groupe, en grappe. Vous y êtes? Quand tu vas à l'autel, c'est-à-dire devant le Dieu créateur des cieux et de la terre, quand tu vas louer, te faire ton truc religieux, d'accord? Comprends l'urgence et la priorité d'une démarche. Si là, tu te souviens, vous regardez le texte, Matthieu 5, si là, tu te souviens, nos cerveaux sont des machines extraordinaires. Il y a un tas de choses qui se passent, d'accord? Vous ne passez d'ailleurs pas une fraction de seconde sans que vous pensiez quelque chose, comme ça, d'accord? Bien ou mal, Mais tout d'un coup, dans votre cerveau, il y a un signal. Si là, tu te souviens, vous connaissez le texte par cœur ? Si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, tu n'es pas en colère, mais juste tu as des indices qui disent que lui, il a un problème, il est probablement en colère. Lui, d'accord ? Si là, tu te souviens qu'il en a contre toi, alors il y a un verbe, j'aimerais juste que vous reteniez l'ordre de Jésus pour la paix et la libération. Va trouver. On connaît « allez, faites des disciples », mais celui-là, c'est aussi « aller ». Il n'est pas question d'aller, Jésus ne dit pas, va pleurnicher sur l'épaule du pasteur. Même pas, pas besoin. Chacun de ceux qui adorent le seul Dieu créateur, il dit, va trouver ton frère. Si tu te souviens qu'il en a contre toi, pas que tu en as contre lui, là, de toute façon, tu vas le trouver, d'accord ? Parce que tu es en pétard, tu es en colère. Mais si lui est en colère, va trouver ton frère, tout de suite. Rien de plus religieux, laisse là ton offrande. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la ramener après. Hein. Non, c'est important. Parce que le Seigneur, notre vie, va trouver ton frère, la chose la plus religieuse à faire. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas t'expliquer. On ne s'explique pas assez. On croit pas que puisque on croit que puisque l'Église est sauvée, il n'y a plus de conflit. C'est faux. On croit que puisqu'on est fait l'un pour l'autre, il n'y aura pas de conflit dans un couple. C'est faux. Messieurs, c'est vrai, mesdames, on se fait l'un à l'autre et c'est jamais fini, ou bien il faudrait que je demande les aînés. C'est fini de vous faire l'un à l'autre? Non. Peut-être vous avez besoin de moins de mots que nous. Qui sommes débutants. Explique-toi, va trouver, avant que l'animosité et l'amertume s'installent, explique-toi, et tu vas le trouver, tu lui dis, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et moi ? Vous ne le savez pas, vous croyez qu'il y a quelque chose, d'accord ? Peut-être, il n'y a rien, alors tu reviens et tu loues ton Seigneur et tu fais ton offrande, ouais. Mais peut-être qu'il va te dire quelque chose que tu ignorais tout à fait. Tu sais, là, tu avais lâché une parole, elle m'a profondément blessé, mais tu n'en es pas conscient, mais ça m'a blessé. Alors, expliquez-vous. Tu sais, si tu vas le trouver, tu prouves que son amitié est importante. Si tu ne vas pas le trouver, tu prouves que c'est indifférent. Va le trouver. Autrement dit, tu es mandataire du Dieu qui a pris l'initiative de la réconciliation. Va le trouver. Vous allez dire, mais c'est son affaire, c'est lui qui est en pétard. Mais non, ça c'est typiquement suisse. Je veux dire, corrompu quoi. Enfin, ou français, c'est pareil. C'est pas son affaire, c'est ton affaire. Parce que quand on adore Dieu, c'est ensemble qu'on adore. Je le redis. Quand j'adore Dieu le Sauveur, j'adore en même temps Dieu mon juge et mon roi. Jamais c'est déconnecté. Il est Sauveur en tant qu'il est mon roi. Et lui peut me dire, qu'est-ce que tu as fait de ton frère ? D'accord ? C'est ensemble qu'on l'adore. Et je crois que cette dimension, elle manque parfois dans les sociétés individualistes, où chacun pour soi et peut-être Dieu pour tous, mais surtout chacun pour soi. Je reviens en arrière. Explique-toi. Parle. Apprends à parler. Est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et moi ? J'aimerais retrouver ton amitié. Mes amis, ces mots-là sont magiques. Si lui vient te trouver, lui qui est en colère, il risque de t'exploser à la figure. Mais quand toi, tu vas le trouver. Mais ce signal que tu donnes, c'est j'ai de l'importance à ses yeux. Vous comprenez ? Tu n'es pas en colère, tu es en meilleure posture pour expliquer les choses que lui qui est en colère. Il y a quelque chose entre toi et moi, j'aimerais retrouver de l'amitié. Attention, parfois on ignore des pensées profondes. Laissez-vous surprendre, peut-être qu'il va vous remballer. C'est pas sûr que ça marche, j'aimerais vous le redire. Au cas où vous êtes des adorateurs de l'efficacité, nous ne sommes pas des adorateurs de l'efficacité. Nous sommes des gens aimants qui aimons la paix et la réconciliation et la concorde, pour autant que ça dépend de nous. La réconciliation, c'est quand deux personnes sont de nouveau bienveillantes l'une envers l'autre, d'accord ? La réconciliation, ce n'est pas deux personnes tout à fait d'accord sur tout. Je vais le redire. La réconciliation, ce n'est pas toujours deux personnes d'accord sur tout. La réconciliation, c'est deux personnes de nouveau bienveillantes l'une envers l'autre. Et c'est très important. De nouveau, dans un bon sentiment, l'instinct de rééquilibrage, attention. La surenchère de la violence, elle doit être brisée. Et la bienveillance et le pardon sont nécessaires. Abandonner l'identité de victime, c'est pas facile, surtout quand ça a duré. Chercher la réconciliation, lui, il entendra quel est l'esprit qui t'anime quand tu vas le trouver. Qu'est-ce qu'il entend, ton frère et ta sœur ? Je crois que c'est important. Alors, je reviens à ce contexte d'application. Je vous rends juste attentif à quelques petits détails qui vous prouvent bien que c'est dans le cadre d'un pèlerinage trisannuel ou à Pâques, tout le monde allait, d'accord ? Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde hein, dans un village. Le pèlerinage, on va au temple de Jérusalem en vue de la rencontre de Dieu. La ville de Jérusalem fait plus que décupler pendant les grandes fêtes de Pentecôte et de Pâques, d'accord ? Et ceux qui se mettent en route viennent de loin. Par exemple, ici, vous avez la notion d'offrande, vous avez la notion d'autel, ça montre Jérusalem, la notion de Sanhédrin, c'est Jérusalem, le juge, la Géhenne, c'est la vallée d'ordures, l'irrécupérable de Jérusalem, c'est ça, la vallée de la Géhenne, ce qu'on a appelé après, malheureusement, enfer, c'est la vallée de Hinnom, hein, c'est la vallée du dépotoir de Jérusalem, qui s'appelle enfer, en fait, quand le latin est rentré dans la Bible, tant que tu es en chemin avec lui, ça montre qu'il y a un chemin. Ah ben, vous savez, pour nous, très souvent, on est en chemin avec des gens, entendez, le Christ qui nous dit, j'aimerais que tu sois l'initiateur de démarches de réconciliation. Qu'arrive-t-il lorsqu'on est en chemin avec d'autres ? Dans tous les cas, à grande échelle ou à petite échelle. J'ai été témoin de choses où, quand ces choses-là ont été enseignées dans l'Église, il faisait mieux vivre dans la paroisse et l'Église que de penser, moi, j'ai ma bonne conscience envers mon Dieu, les autres, peu importe. D'accord ? La paix est troublée, les relations ne sont plus saines et bienveillantes. Il y a des incompréhensions, des situations non réglées, des colères, de l'amertume, des insultes mentales ou formulées, où on commence à égratigner la carrosserie de l'autre. Vous savez ? On passe à côté de sa voiture, on prend un clou, c'est bien fait pour lui. Non, j'exagère, vous ne faites pas ça, hein ? On fait pire. Mais c'est juste vous rendre attentif de ce qui arrive. Et là, dans ces grands pèlerinages, il y avait plusieurs fois 10 000 personnes en route. Et pas seulement avec les gens qu'on choisit, aussi avec la fiancée que mon voisin a pris et que j'aurais bien aimé, aussi avec celui qui est le débiteur, aussi avec celui qui a mieux réussi que moi. D'accord, vous comprenez ? Avec les gens normaux. Hein ? Et comment je puis savoir si quelqu'un est en colère contre moi ? Je ne sais pas, moi je vous dis ce que je pense, mais... Comment vous savez-vous si quelqu'un est en colère contre vous, en a contre vous ? Vous avez des indices ? Il boude, oui. J'en ai mis quelques-uns. Il m'évite. Il m'égratigne. Vous avez souvenez-vous de la carrosserie ? Il dit du mal de moi. Enfin, un peu. Il change de trottoir. Ce sont des indices. Et le Seigneur voudrait une qualité de relation Et les deux ordres qu'il donne sont les suivantes. Premier ordre, si là tu te souviens. Trois ordres clairs. Va, laisse te réconcilier. Va, ça veut dire prends l'initiative. Vous vous souvenez ? Prends l'initiative. Deux, laisse, ça veut dire il n'y a pas plus religieux que ça. Même pas les cantiques, même pas l'offrande. Même pas aller à l'église. Il n'y a pas plus religieux que ça dans le royaume que le Christ introduit. Va te réconcilier, sois à nouveau bien disposé l'un envers l'autre, si possible, et là j'aime bien le réalisme de l'apôtre Paul, pour autant que ça dépend de vous, soyez en shalom avec tous les hommes. Vous vous souvenez ça, on a Romains 12, verset 18. J'aime bien ce réalisme. Et peut-être à un moment donné, tu auras fait. Et il dit non, tu as fait ce que tu avais à faire. Et il faut accepter de vivre parfois irréconcilié pour autant que ça dépend de vous. Mais ça dépend beaucoup de nous. Ça dépend beaucoup de nous. La politique française ne dépend pas d'abord du président, mais des citoyens qui le composent. Dans l'Église, c'est pareil. Dans nos familles, c'est pareil. Je connais beaucoup de gens, je viens d'une famille un peu dysfonctionnelle, je peux vous le dire, hein, où il y avait des antagonismes. Je me souviens en tant qu'enfant, les anciens de l'Église avaient souhaité une rencontre avec la présence des enfants petits qu'on était. Et moi, j'ai retiré dans mon cœur, d'une manière inconsciente, l'Église n'est pas indifférente quand il y a de l'animosité. Et moi, ça me parle. C'est resté là. C'est resté. Le deuxième ordre est plus financier. Tant que tu es encore en chemin, une affaire financière, accorde-toi, trouve une solution. Fais-toi-en un ami, trouve une solution. Il y a des solutions. Vous savez, quand vous allez voir quelqu'un, il entendra si l'argent est plus important que son amitié. C'est ça qu'il va écouter. Si lui est plus important qu'une perte financière, il va l'entendre. Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas calculé. Il a donné ce qui était le plus cher au cœur d'un père ou d'une mère, c'est donner son fils. Nous, si on peut être des petits apprentis de ça, comprendre que Dieu aime la réconciliation et la paix et l'unité, réconcilier, c'est beau. Ce qui est commun dans les deux cas, c'est de comprendre l'urgence du Seigneur. Vous l'avez entendu cette parole ? Je ne vais pas, le redire. Éviter que les situations s'enveniment. Deux, trouver des solutions acceptables. Trois, purifier les mémoires et les relations. Et j'aimerais conclure. Tu ne tueras pas. Réponse de Jésus, le sens plus profond qu'on l'imagine, tu ne tueras pas. D'accord ? Apprenons à vivre réconciliés avec tous. Le Saint-Esprit nous est promis, et à la Pentecôte, vous devez savoir qu'une des premières choses que veut le Saint-Esprit, c'est la concorde. Il t'enverra, certainement, il t'accompagne dans ce que le Saint-Esprit est en train de te montrer comme situation où éventuellement on peut mettre en pratique cette simple injonction. Ce qui empoisonne la vie commune, aussi la vie d'Église, ce sont des relations non restaurées. Vous êtes d'accord avec ça ? Certains disaient, il y a eu un réveil dans certains pays, il y a eu des chapelles dans tous les quartiers, il y a eu un fantastique renouveau. Mais puisqu'on n'a pas mis ceci en pratique, le renouveau, il est tombé tout d'un coup comme une... On tombe comme une... Un soufflet. Voilà. Que le Seigneur permette que le bon esprit des relations puisse être renouvelé dans nos vies, par nos vies, également dans les paroisses et les églises auxquelles nous appartenons. Ensuite, ce culte devant le Créateur de tous. Le roi qui demande compte et qui aime la réconciliation. Dieu est trois en un. Il est réconciliation, comme personne ne l'est. Et il nous demande qu'on vive à son image. Que le Seigneur nous accorde sa paix. Va, c'est la chose la plus religieuse à être et à faire. Amen. Je vous invite à vous lever et à prier ensemble la prière de réconciliation qui est le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Pour nous asseoir.
Réconciliation, quel beau mot de la langue française. Et merci, Claude, pour ce que tu nous as transmis. C'est vrai que le Christ enseigne tout au long de son parcours terrestre, par des choses qui nous retournent. Mais en plus, c'est qu'il accomplit son enseignement. Et dans cet immense amour, comme on l'a vu déployé pour nous, dans cet amour déployé pour nous à la croix, il y a le ferment de la réconciliation, de Dieu avec nous, de nous avec Dieu, et des peuples et entre nous. Alors, fort de cet amour, à l'approche de ce repas de communion, si tu te souviens, va, approche-toi de ton frère, va trouver. Vous n'êtes pas beaucoup à partir, ça va. Mais si tu te rappelles de quelque chose, tu te souviens de quelque chose, eh bien aujourd'hui, maintenant, avant le repas, promets en ton cœur d'aller trouver, de faire. Et prends, examine-toi, dit l'Écriture, et prends le repas de cette communion que Jésus a voulu, ce repas qui nous rappelle cet amour déployé pour nous. Comme nous étions dans Matthieu, on va rester dans Matthieu, merci Claude de venir vers moi. merci à ceux aussi qui préparent dimanche après dimanche cette table pour nous. Tout est prêt. Il n'y a qu'à se servir. Venez, car tout est prêt. Alors merci à ceux qui, dans l'ombre, agissent tout dimanche, chaque dimanche. Ils mettent, ils nettoient, ils refont. Une petite parenthèse. Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 29, la Sainte Cène. Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir remercié Dieu, « Oui Seigneur, merci pour ce pain, merci pour cet élément qui nous rappelle ton corps. Merci pour tous tes bienfaits. » Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin. Et après avoir remercié Dieu, « Merci Seigneur pour le vin. » Symbole de joie, de fête, mais aussi qui nous rappelle ton sang qui a coulé pour nous. Il prit une coupe de vin et la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin, jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de Dieu, mon Père. » Ils chantèrent des cantiques, des psaumes, de la fête, et ils s'en allèrent au mont des Oliviers. On sait ensuite tout ce qui s'est passé. Ce que je voulais relever, c'est que c'est le tous, buvez-en tous, partagez ceci entre vous. Voilà. Ces choses qui nous rappellent que c'est vraiment un corps, que l'Église, cette communion que Dieu a voulu pour nous. Vivons réconciliés en lui.
Prions le Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes enfants. Tu connais nos duretés, nous te les confessons. Tu veux faire de nous des instruments de ta paix. Nous sommes souvent des instruments de guerre. Pardon, Seigneur. Aide-nous à aimer ton projet de réconciliation en anticipation à la guérison du monde. Et nous te remercions pour la grâce que tu nous fais de nous appeler par nos noms et de nous inviter à cette table de la fête du royaume qui est inaugurée. Nous te remercions pour le salut, un don gratuit, pour la réconciliation en ton sang, et en ton corps qui est brisé pour nous. Seigneur, merci pour la nouvelle Pâque, pour le nouvel Exode vers un pays où il fait bon vivre. Apprends-nous à être des porteurs de la bonne nouvelle dans nos actes et nos paroles et nos pensées. Dans le Christ, notre Sauveur. Amen.
Amen. Si deux personnes veulent peut-être nous rejoindre pour nous aider à la distribution. Je rappelle, dans les plateaux, il y a des petits gobelets roses qui ont du jus de raisin. Voilà. Et pendant ce temps de communion, si quelques-uns désirent s'exprimer par la prière, par une prophétie, par un texte, qu'ils le fassent absolument librement. Il y a les gobelets avec les coupes ici, avec du vin. Ceux qui désirent la coupe, ils poursuivent. Merci Seigneur pour ce temps de partage et de communion. Merci pour le rappel de tout ce que cela veut représente pour chacun, de cet amour partagé, de cet amour qui nous envoie. Sois loué et adoré parce que tu es ce Dieu Seigneur et Sauveur. Amen.
Amen. Amen.
On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est une religion active, va trouver. Mais c'est aussi une religion active plus... Alors, c'est vrai qu'on nous a fait connaître tout cela, il nous donne beaucoup de choses. Je propose de chanter le chant numéro 32 pendant le temps d'offrande. Cet argent, Seigneur, qui peut être source de profit, source de haine, de mésentente, puisse être retourné dans ta main pour le service et pour le bien et pour faire connaître cette bonne nouvelle en Christ. Sois loué et béni. Amen. C'est le temps des annonces. Merci.
Voilà, les annonces. Mardi qui vient, il y a la reprise des ateliers bibliques avec comme thème les fondamentaux de la réforme, 4 rencontres, 19h30 ici. C'est le premier thème abordé, c'est seulement les écritures, point d'interrogation, et les autres bonnes idées, alors. Voilà. Et puis il faut relever à propos de ces ateliers bibliques l'horaire, 19h30, accueil, petite collation, et se déroule ensuite la rencontre qui se termine à 21h15. Donc vous voyez, c'est un temps ramassé qui est sympa, dynamique et qui ne vous prend pas toute la soirée quand même. Voilà. Dimanche 14, c'est dimanche prochain, nous aurons le plaisir d'entendre un candidat au poste de pasteur. Vraisemblablement, c'est le groupe de recherche du nouveau pasteur qui l'a invité et qui nous invite à venir l'écouter. Et nous vous recommandons aussi de prier pour nos pasteurs actuels et puis pour cette recherche d'un futur pasteur. Vendredi 19 mai, donc dans 12 jours, concert de louanges, c'est au CEPOM, donc à la Cité, à 19h. Et dimanche 21 mai, c'est la sortie des potes du dimanche, une sortie qui se déroulera dans le cadre du rallye de la Réforme, une activité qui est proposée, on vit les 500 ans de la Réforme. Voilà. Alors il y a aussi cette activité pour les enfants. Vous voyez que c'est une activité qui regroupe toutes les églises de Genève, hein, que ce soit le réseau évangélique, mais aussi l'église catholique, les églises libres et l'église protestante, évidemment. 9h15 à la Treille. Dimanche 18 juin, nous aurons le plaisir de vivre des baptêmes. Et nous vous rappelons, il y a un groupe de réflexion sur la communication dans l'Église qui est en activité maintenant. Ils ont lancé un sondage sur le site internet que nous souhaitons rénover. Et ce sondage est à rendre jusqu'au 10 mai. Je ne sais pas s'il y a encore des exemplaires papier là-bas pour les personnes à l'extérieur. Oui, merci. Oui, par exemple, ouais, qui veut le dire. Alors, nous vous souhaitons un bon dimanche et nous vous rappelons qu'il n'y a pas de repas communautaire puisque nous l'avons vécu dimanche passé.
Voilà, merci aux différents intervenants, les musiciens, la présidence. Que le Seigneur bénisse la vie de chacun d'entre nous. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Le vieil apôtre Jean a dit dans 1 Jean 4, « Et l'amour consiste en ceci, non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils, pour que grâce à lui nos péchés soient pardonnés. » Mes amis, poursuit-il, « si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Que la paix du Christ à laquelle nous avons été appelés pour former un seul corps, règne dans nos cœurs. Allons dans sa paix et dans sa joie. Amen. Bon dimanche aux uns et aux autres.